I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, allez, on se tient au jus.
Salut, c'est Camille et Justine, bienvenue dans notre podcast On se tient au jus. Aujourd'hui, on est avec Claire Succo et on boit un jus de citron. Comment ça va, Claire ?
Ça va bien et vous ?
Ouais, ça va très bien.
Ça va.
J'allais dire comme une rentrée, comme l'autre fois.
Comme un lundi.
Oh, terrible.
Comme un lundi.
C'est les pires expressions. Alors
Claire, on a l'habitude de faire un acrostiche pour présenter nos invités.
J'ai hâte
comme
d'entendre le mien.
Tu nous as dit que tu avais hâte d'entendre le tien.
Oui.
Donc bien, accroche-toi à ton siège.
Claire. C comme créatrice de la marque de vêtements éthique et engagée Meuf Paris.
L comme se libérer des injonctions et écrire sa propre histoire. C'est le sous-titre de son livre intitulé Meuf qui vient de sortir et qu'on vous recommande.
A comme Angèle, oui, la chanteuse avec qui elle a fait une collab incroyable pour le clip Balance ton quoi.
I comme Instagram, que ce soit sur son compte perso Claire mais pas toujours, ou sur celui de Meuf Paris, sa communauté qu'elle appelle la Meufia, profite de ses posts engagés, inspirants et éducatifs.
R comme Ray, son chien, trop beau.
Oui.
E comme Empowerment, elle ne cesse d'encourager les femmes à vouloir plus, à prendre plus, à faire plus, et nous on l'adore pour ça.
Trop bien, j'adore. Trop stylé.
C'est une petite présentation, déclaration.
C'est trop cool.
Un petit mix des deux.
Parce que clairement, clairement, oh, ce genre de truc qu'on a dû faire.
Jamais. Franchement, t'es dans l'innovation là.
Non, mais en plus, c'est pas volontaire. Ce qui est abusé, c'est de le noter. Ouais. Alors que c'est bon, c'est un mot. Enfin, ça va.
T'as qu'à dire OK, je sors après.
OK, je sors et le faire vraiment et me lever et faire.
Et toute la table dit bah non, sors pas, ta blague était bien.
Oui, parce qu'il faut arrêter de dire OK, je sors, c'est ringard, c'est bon. C'est bon, il y a quelques mots. On cesse. Donc, oui, parce que principalement, en vrai, le public te connaît surtout pour être la créatrice de Meuf Paris, ce qui n'est pas rien. Qui est une marque éthique, engagée et ouvertement féministe surtout. Mm-hmm. Et ça, je me demandais si c'était facile à faire. C'est-à-dire, si quand t'arrives et que tu dis je veux faire une marque où je vais écrire sur des t-shirts féministes ou officiellement, sans détour, sans gants, tu trouves des sponsors, des gens qui t'accompagnent ?
Alors nous, on a tout internalisé aujourd'hui, donc il n'y a pas grand monde qui nous accompagne parce qu'on fait plus ou moins tout, tout seul. Après, franchement, enfin. Meuf, ça s'est vraiment fait. Bah, vous avez nommé Instagram et c'est vraiment Instagram qui a lancé Meuf et qui a fait que ça a pris. Enfin, du coup, c'est vraiment les gens ont acheté en fait. C'est nous, on est en autofinancement, oui. On n'est pas. Tu vois là, si demain je vais en recherche de financement, je pense qu'effectivement, je vais avoir un peu le truc de oui, bon d'accord, mais tu vends des t-shirts féministes, c'est quoi le business model, c'est quoi le concept, tu vois. Mais pour l'instant, on est vraiment entre nous entre guillemets, tant sur la partie production. Où on a tout internalisé, on fait tout nous-mêmes, on a notre propre atelier, donc voilà, hein, finalement, ça va. Et sur Insta, après, on se tape des hordes de masculinistes.
Tiens donc,
comme
oui,
mais bon, ça, c'est.
Bon. Quoi, ils sont pas d'accord, ils pensent pas que Harry serait mort au premier tome sans Hermione.
Non, et alors, le dernier qu'on m'a sorti, qui est quand même très très drôle, c'est que le patriarcat, c'est parisien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de patriarcat en province.
Ouais, mais certainement.
Mais tu passes le périph, fini. Il n'y a pas de femme violée, il n'y a pas de. Il n'y a plus. Fini.
Il n'y a pas de femme battue.
Non,
y a
c'est
pas
fini.
De...
C'est que Paris.
Le patriarcat, c'est que ça surtout. C'est pas genre, par exemple, le fait que c'est toujours les femmes qui font tout à la maison, chez tous les amis chez qui je suis allée, moi qui ai grandi à la campagne.
Ah bah oui.
Où je voyais leur daron assis dans un gros fauteuil avec un journal. Non mais le cliché, avec des charentaises aux pieds qui foutaient rien de la journée.
C'est clair.
Et ça, c'est pas le patriarcat, par exemple.
Mais le patriarcat, c'est pas le fait que dans 75% des films, les rôles soient que masculins,
mais
par exemple.
Pas, mais non, mais ils passent que à Paris, les films.
Dans les films qui diffusent en province,
il y a que des films féministes.
50-50. La parité, dans tout.
Ça a l'air trop bien, putain, qu'est-ce qu'on fout là?
Allons en province immédiatement. Et du coup, comment ça t'est venu de créer cette marque? Alors, quelle est la genèse?
T'as jamais dû le dire, on est sûr.
Ouais. Mais nous, on veut savoir.
Vous avez lu le livre ou pas?
Oui. Moi, j'ai lu le début du livre.
Non, ah, ok.
Moi,
parce
pas
que
encore.
Je fais une révélation.
Parce qu'on l'a reçu la semaine dernière, mais très, très hâte de le lire.
Ok, parce que je fais une révélation dans le dernier chapitre. Mais
okay. Ah, bah non, du coup.
Ah oui, oula.
Sur le, donc, ça va être un spoil. La vraie histoire. De...
D'accord.
Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je peux spoiler.
Ok. Moi, je sais pourquoi tu l'as appelée Meuf, ta marque.
Ouais, mais en fait, alors, il y a l'histoire que je raconte qui est partiellement vraie. Mmh. D'avoir envie d'exprimer plein de choses, qu'il y avait plein de choses que j'avais envie de dire quelque part et que je trouvais pas l'endroit, et je m'étais dit mais les fringues c'est génial, c'est un endroit, enfin c'est de l'expression de soi en fait, et c'est cool. Et aussi le côté, quand on est une femme on choisit nos vêtements comme tout le monde. Mmh. Mais il y a un côté où ça peut être un peu un stress de se dire à quelle heure je rentre, qui je vois aujourd'hui. C'est une charge mentale en fait, beaucoup plus que pour un mec qui est là. Bon, moi je vais au taf, je mets une chemise si je dois en mettre une.
Oui,
et je vais voir mes potes, je m'habille comme
un t-shirt,
je veux.
Et ouais, c'est bon.
Voilà, tu vois. Nous on est en mode attends, mes jupes, je rentre à quelle heure, machin. Et c'est pas normal du tout, hein, mais c'est une réalité. Oui. Et du coup, quand t'es une femme et que t'es face à ton armoire, il y a toute une réflexion. Et je trouvais ça cool de se dire, bah, ce serait trop cool de pouvoir prendre une fringue et de se dire, bah, je vais dire quelque chose avec, quoi. Je vais, si j'ai envie de mettre une jupe, je vais prendre une fringue qui dit que je fais ce que je veux et que je mets une jupe si je veux. Et voilà, enfin, c'était vraiment cette idée-là de s'habiller positivement, on va dire. Voilà. Voilà, ça, c'était un truc qui était en moi. Après, ce que je dis rarement et que j'explique dans le livre, justement, c'est que, et je pense que c'est hyper intéressant de le dire, c'est que j'étais très très mal quand j'ai créé Meuf. En fait, je venais d'avorter et j'étais en dépression. Enfin, maintenant, je sais que c'est une dépression, mais franchement, sur le moment, j'étais juste en train de chialer tout le temps. Et je pense que si j'avais vu des médecins, ils m'auraient clairement aidé, quoique. Mais
bref. Tu étais suivie ?
Bah, je le raconte dans le livre, dans le chapitre sur l'IVG, mais j'ai vu un médecin. Parce que quand tu avortes, tu as le droit à une consultation, justement, ça fait partie du package offert par la sécurité sociale. Et le psy que j'ai vu, déjà, c'était à l'hôpital, entre la salle d'accouchement et la salle de meuf qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Bon, déjà, c'était pas. Enfin, t'arrives. Le premier truc que j'ai vu, c'est un bébé de 2 jours. Et la meuf me dit, mais vous savez, à côté, il y a des femmes qui n'arrivent jamais à avoir d'enfants. Enfin, voilà, merci, quoi.
Ah, culpabilisant.
Ouais, hyper culpabilisant. Nickel. Mais moi, toute mon IVG, ça a été ça. C'était horrible. Ouais. Enfin, c'était vraiment des connards, quoi. Ça faisait 7 ans que j'étais avec mon mec. Du coup, j'étais en mode, bah, pourquoi vous le gardez pas, en fait
Bah, parce que t'as pas donné ton avis.
Ouais, c'est ça. Et ouais, en fait, je parle de ça dans le livre, justement, j'avais pas de raison valable, dans le sens où, tu vois, j'avais pas 16 ans, étudiante, machin, du coup c'était enfin,
je c'est suis... ce que des gens appelleraient un avortement de confort, alors que ça les regarde aucunement,
exactement,
jamais, en aucun cas.
Exactement, et c'est ça qui a été du coup, je pense que c'est un truc où il y a encore beaucoup de jugement, quoi. Et bref, du coup j'avais avorté il y a 3 mois, quand j'ai créé Meuf, et donc c'est...
Ah ouais, ça a été ta...
Ouais, ça m'a beaucoup aidé.
Ta thérapie, un peu.
Un peu, ouais. Un peu. J'étais un peu en mode, ok, j'avais ce projet dans un coin de ma tête. Mm-hmm. Là, je suis vraiment pas bien. Il me faut un truc pour me sortir du lit, en gros. Hein, franchement, c'était ça. Et en fait, au début, c'était très dur. Et petit à petit, c'était de plus en plus facile. Et comme je voyais que j'aidais des meufs sur Insta, bah, forcément, ça m'aidait. Et j'ai vraiment fait le truc comme ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que moi, du coup, j'ai un rapport hyper fort à Meuf, parce que j'ai l'impression que parfois j'ai mis un bout de mon âme dedans, tu vois. Enfin, c'est très particulier, quoi.
Trop bien. Voilà. Très belle histoire. J'aime beaucoup.
Voilà.
Ok. Eh bah, dis donc, on peut vraiment sortir de très belles choses, de mauvaises choses.
Ouais.
Wow, super. Hein, non, mais c'est très philosophique. C'est vrai, c'est
t'as réussi à faire quelque chose de beau, de quelque chose de triste.
Ouais, mais tu vois, c'est pour ça que je trouve ça cool de le dire, parce que
la résilience.
Souvent, quand on n'est pas bien, on se dit,
on va servir plus à rien,
Et tout. Et en fait, tu peux faire un truc stylé, quoi. Et franchement, au début, je pariais pas beaucoup sur moi, quoi.
Oui.
Je me serais pas dit ça va faire ça, tu vois.
L'estime de toi à ce moment-là était pas.
Bah ouais, j'étais vraiment pas bien, tu vois. Même si c'était pas du tout une histoire de regret ou quoi, j'étais ok avec ma décision, voilà, j'étais pas bien.
Oui, c'est vrai qu'on peut-être qu'on dit pas assez que quand on avorte, on n'est pas forcément bien derrière.
Oui, voilà.
Quoi, c'est pas parce qu'on a pris cette décision là d'avorter
et
qu'on est complètement
ta décision,
ok.
Ouais. Et pour autant,
pas être bien après, voire un an après, voire 2 ans après. Enfin voilà, ça peut être un trauma clairement.
Ouais. Après, il y en a aussi pour qui ça passe très bien.
Oui, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, tout est possible.
Les deux sont ok, quoi.
Et en tout cas, ce qui est certainement pas ok, c'est le fameux parcours culpabilisant de tomber sur des médecins
qui existent encore, quoi.
Qui existent encore. Carrément, quoi. J'ai l'impression dans au moins la moitié des cas, quoi, parce que tous les avortements que j'ai que j'ai connus autour de moi, enfin pas tous du coup, mais une bonne partie s'apparentait à ça, quoi.
Ouais. Et tu te dis, en plus, bah... c'était en province, hein, donc.
Alors qu'une patrie n'existe pas normalement là-bas.
Trop bizarre.
Ouais, donc, non, faut arrêter ça.
Dans ton livre, il y a beaucoup de sujets forts, du coup. Mmh. Moi, j'étais surprise, parce que je m'attendais à lire, justement, plus autour de meufs, de la création. Et en fait, dès les premières pages, tu parles beaucoup du rapport à ton père.
Ouais.
Tu parles d'une agression sexuelle, tu parles d'IVG. Ça fait partie de ta construction, ou c'est parce que t'as fini ce chemin-là que t'as réussi à en parler, ou t'as une volonté d'aider les gens, enfin, ou c'est... Je sais pas, tu t'es peut-être pas posé ces questions-là, t'as juste mis ça sur le papier.
Bah, en fait, le livre, c'est Larousse qui est venue me voir en me disant « On voudrait meuf en livre ». C'était ça, la demande. Mm-hmm. Et que moi, j'étais un peu en mode...
Ils ont reniflé un petit...
Oui, c'est-à-dire meuf en livre, c'est un petit peu bizarre. Enfin, je voyais pas trop le truc. Et en gros, ils m'ont demandé de leur faire une proposition. Moi, je me suis dit « Ok, en gros, ce serait cool d'aborder plein de sujets qui concernent les femmes. » Au début, d'ailleurs, j'en avais mis beaucoup plus que ce que j'ai fait finalement. Et j'avais mis, tu vois, même accouchement, postpartum, ménopause. Je voulais parler de tout. Parce que pour moi, meuf, on parle de tout. Ouais. Donc je me suis dit, ok, il faut que je parle de tout.
Et de tout le monde.
Et en fait, au bout d'un moment, j'ai fait, oh putain, ça va être compliqué. Enfin, il y a beaucoup trop de sujets, je peux pas. Et je me suis dit, ok, ce qui peut être intéressant, c'est de parler des sujets que je connais. Ménopause, je connais pas encore. Grossesse, je connais pas. Peut-être que je connaîtrai pas. Enfin, grossesse à terme. Enfin, tout ça, voilà. Tous les sujets que j'ai pas vécu, je vais les zapper. Ça fera un autre livre peut-être plus tard, si je les vis. Et je vais plus partir de moi, parce qu'en plus j'avais, enfin, tu vois, sur meuf, il y a un truc où on est très on se parle un peu comme là, tu vois, c'est pas, on n'est pas un compte très pointu où il y a que des mots de féminisme pointu et tout ça, même si des fois on en explique certains.
Non, vous essayez d'être accessible.
Ouais, on essaye d'être accessible, et il y a plein de gens, il y a plein de gens qui nous disent, mais moi je suis pas féministe, mais je vous suis, et je suis trop d'accord avec vos idées.
Oui, très bien.
Et en gros, t'es féministe.
Déjà, un peu féministe.
Oui, mais tu vois, mais
c'est un premier pas qui est bien.
Mais c'est-à-dire que c'est des gens qui se reconnaissent pas dans ce mot, mais qui peuvent se reconnaître dans les idées et les choses qu'on évoque. Et pour moi, c'est cool aussi de parler à ces gens-là. Et je me dis, en fait, bon, les gens qui sont déjà féministes, ils n'ont pas besoin d'être très convaincus. Donc, c'est, voilà. Et le livre, je voulais vraiment que ce soit ça. Et je me suis dit, bah, dans cette optique-là, c'est cool de partir de moi aussi. Après, franchement, je ne pensais pas du tout que j'allais écrire sur des trucs aussi perso. Ouais,
tu t'es laissée
Je me suis vraiment laissée écrire, quoi. Enfin, vraiment, par moments, j'ai eu l'impression que c'était le livre qui m'écrivait. Enfin, tu vois, c'était vraiment... je ne m'attendais pas du tout à écrire sur autant de sujets, et est-ce que ça soit aussi perso. Et puis ça s'est fait, et je l'ai envoyé, ils étaient hyper contents, ils m'ont dit, mais c'est génial, ça va vraiment parler à des gens. Et au final, là, les premiers retours que j'ai, c'est vraiment ça aussi, c'est que les parties qui parlent le plus, c'est vraiment quand je parle de moi.
Bien sûr.
Et voilà, et après, franchement, pour moi, ça a été aussi hyper bénéfique. Enfin, mais c'est tout ça, je m'y attendais pas, quoi. Mais ouais, non, ça m'a apporté plein de trucs, d'écrire tout ça, de le mettre quelque part...
Ah, l'intime est universel. Clairement, c'est ça. Très souvent plus grave que les gens ils aiment. C'est, enfin, en fait, et c'est ça aussi qui est salvateur dans le fait de le faire, c'est se rendre compte que le truc dont tu parles, qui te, je sais pas, toi te prenais la tête ou quoi, t'en parles et d'un coup il y a 1000 personnes qui disent moi aussi.
Ouais,
quoi, c'est clair. Je croyais que c'était moi toute seule dans mon coin qui avait ce truc.
En fait, l'importance de parler, quoi.
Ouais.
Bah, et dans le livre il y a pas mal de témoignages aussi. J'en ai reçu énormément. J'étais assez étonnée d'en recevoir autant. Et bah, notamment sur le chapitre 2, qui est sur les violences sexuelles. Et tu vois, ça m'a fait du bien, c'est un grand mot. C'était très dur à lire, mais ça m'a fait du bien de voir qu'il y avait pas mal de... Moi, quand je les lisais, je voyais plein de points communs avec mon expérience. Enfin, expérience, c'est peut-être pas le mot approprié. Mais voilà, mon vécu. Et ça m'avait fait vachement de bien, en fait. Et je m'étais dit, ok, donc... Ce qui m'a vachement marqué, par exemple, en prenant ce sujet-là, c'est que... 90% des cas, c'était bah, évidemment des mecs qu'elle connaissait, et 90% des cas, elle culpabilise, en fait.
Ah, oui.
Et moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti, et c'était agréable, on va dire ça comme ça, de voir que c'était le cas de 90% des femmes, en fait. Enfin, et de se dire, ok, le problème vient pas de nous. Quand c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, je vois bien que c'est pas du tout possible ce qu'elle dit,
que c'est
évidemment
pas elle,
que elle y est pour rien et tout ça. Donc en fait, c'est pareil pour moi, mais on a toujours plus de mal quand c'est pour soi, quoi.
D'où l'idée que on continue à parler, on continue à libérer la parole, et que les gens qui disent oui, mais c'est bon, maintenant on a compris, j'ai envie de leur dire
non.
Déjà non, on n'a pas compris, sinon il y aurait plus d'agressions sexuelles et de viols. Or, il y en a tout le temps, trop.
Ouais.
Tous les jours,
beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et deuxièmement, ça fait toujours du bien à quelqu'un. du bien. Oui, d'entendre l'histoire de quelqu'un d'autre qui lui ressemble et c'est pas fini. Il faut encore et encore plein de gens qui parlent pas, énormément de gens qui parlent pas, et on est loin d'avoir tout délié.
Bah c'est clair. Vraiment. Et la plupart des témoignages que j'ai reçus, ils me disaient j'en ai jamais parlé. Enfin,
oui.
C'est waouh.
Non, on est au début du chemin. Donc s'il y en a qui en ont déjà marre. Après, je me doute pourquoi, du coup. Mais si ceux qui en ont vraiment marre, qu'on n'arrête pas de parler de ça, c'est peut-être que vous avez quelque chose à vous reprocher. Parce que,
ouais, c'est clair.
Moi, j'en ai pas marre, genre, vraiment pas.
Ah ouais, non, on n'en parle pas assez.
Eh bien, très bien.
Sur une note...
Là, on n'est pas dans le rigolo. Mais c'est
des sujets importants. C'est important. On aime tous les sujets.
Et t'as fait une carrière dans le cinéma avant, j'ai vu ça.
Ouais. Toi, tu fouilles trop, toi. Ouais,
grave,
toi,
oui.
T'es une stalker.
T'es journaliste,
j'ai envie, de pouvoir poser, tu sais, dire à la mété. Ouais, j'ai vu sur Internet. Ah, il y a une vidéo de toi quand tu étais petite. On va la mettre maintenant.
Ah, non, les enfants de la télé, là.
Non, mais tu bossais où? Tu faisais quoi?
Ouais, j'ai bossé sur plein de tournages. J'ai fait de la pub aussi. J'ai fait assistant à réalisation et prod.
Et c'était ça ton but? Ton objectif? Enfin, t'avais une envie.
Non, moi, j'avais envie de faire des films moi. Et d'écrire moi.
Ok.
Et du coup, je bossais sur le projet des autres et c'était ça qui me frustrait un petit peu. C'est pour ça que j'ai arrêté.
Et que t'as créé ton projet.
Voilà, exactement.
Tu l'as mis de côté ou t'arrives à mettre de ça dans Meuf?
Bah, un petit peu, parfois. On fait des vidéos.
Des pubs,
on en avait fait une.
Des sponsors.
On en avait fait une avec, avec Marion Séclin,
oui,
justement,
voilà.
Sur les règles. Ça m'avait trop fait kiffer, justement.
T'avais réalisé?
Ouais, c'est moi qui ai écrit et réalisé. Et c'était trop cool de le faire. Après, tu vois, enfin. Je le fais de moins en moins et je vais le refaire de plus en plus. Mais les posts sur Meuf, quand je les écris, pour moi, il y a un truc très, qui me fait kiffer aussi niveau artistique. Je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, le fait d'écrire,
ça vient de toi.
Ça me fait du bien aussi. C'est un truc qui est lié à tout ça. Moi, ce que j'aime, c'est écrire, créer. Et au final, sur Meuf, je le fais avec un sujet qui me passionne. Donc, c'est plutôt cool, quoi. Et puis, vu que je suis mon propre patron, je peux faire des vidéos si je veux. Après, il faut avoir le temps. Mais voilà.
Tu es même ta propre patronne.
Ma propre patronne, je suis bien de me reprendre.
Petite question, Claire, adolescente, elle penserait quoi de Claire d'aujourd'hui?
Je pense qu'elle serait fière. Elle hallucinerait un petit peu, quoi. Elle serait un peu en mode, toi, tu fais ça, truc de ouf, quoi. Enfin, je pense que moi, je viens pas du tout de... Je connais personne, je viens pas d'un milieu privilégié du tout. J'ai grandi dans un milieu assez pauvre et tout. Enfin,
où ça?
J'ai grandi...
Là, c'est... Parenthèse, c'est juste pour que les gens qui connaissent la ville se diront chez eux, ah, moi aussi, je viens de là.
Ah oui, oui. Bah, alors, j'ai fait plusieurs villes, donc il y a plein de gens qui vont se dire, moi aussi, je viens de là. Mais j'ai fait Toulouse, un petit peu en Bretagne, près de Vannes, et Lyon. Et je suis née à Perpignan, mais j'y suis restée très peu de temps.
Petit tour de France.
Voilà, j'ai fait un petit tour de France.
Okay.
Mon mec m'appelle la diplomate Discount, parce que lui, il est fils de diplomate et il faisait le tour de l'Europe pendant que je faisais le tour de la France. Voilà. Donc il me clash comme ça.
Sympa.
Ouais, il est sympa. Non, mais en vrai, il est sympa. Hein.
Donc
et
elle
bref,
serait fière.
Ouais, je pense qu'elle elle dirait... Enfin, je pense qu'elle n'aurait pas imaginé que c'était possible, quoi. D'écrire un livre, de créer une marque, tout... D'aider des gens, c'est trop cool. Tu vois, sur Meuf, quand on reçoit, j'ai réussi à me mettre en maillot grâce à vous. Putain, c'est trop stylé.
Ouais, c'est...
Ouais, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir.
Ouais.
C'est très, très bien. Cool. Vous faites que des fringues pour les femmes, hein, pour l'instant.
Ouais.
C'est non-mix
Non, c'est non-genré.
Non-genré, ouais, c'est mixte.
Non, c'est plutôt morphologie féminine.
Et c'est une volonté
Ouais,
vous avez
en
pas
fait,
envie
on, avait fait on avait fait mixte. Mais en fait, mixte, c'est un peu... masculin. En fait,
mixte, c'est taille homme.
Bah, c'est ça, en fait.
Je sais plus quand on m'a dit ça il y a pas longtemps. On m'a dit non, mais ça, c'est mixte. Je dis non, mais mixte, ça veut juste dire que ça va à un homme, en fait. Hein.
Bah, ouais. C'est ça, en fait.
C'est concrètement. Bah, vous êtes en train de me dire que mixte, c'est mon t-shirt taillé pour un homme qui va aussi rentrer dedans. Mais
c'est ça, en fait. Et du coup, au début, j'ai fait ça et en fait, ça me gênait. J'étais en mode, bah, en fait, c'est encore un truc d'homme. Enfin, tu vois, finalement.
Je pense que les vêtements mixtes sont créés sur des mannequins hommes.
Mais je vois le concept du non-genré, mais tu vois, en plus, nous, on s'adresse vraiment, en tout cas, à des personnes qui se sentent femmes. Et, et du coup, voilà, c'est vrai que globalement, il y a une morphologie qui est quand même différente. Il y a une poitrine, il y a une taille qui est plus fine. Et c'est vrai qu'on fit un peu plus le truc. Tu vois, ça, c'est moins mixte, quoi.
Et ça vous est reproché?
Non.
Enfin, c'est le fameux, les mecs qui ramènent un peu tout à eux, je veux dire, est-ce que vous recevez
Non. On a déjà eu des messages de mecs qui disaient qu'ils voulaient porter nos fringues.
Oui, mais ceci, ça n'empêche pas.
Après, voilà.
Dit,
ouais, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, achetez juste une plus grande taille que d'habitude.
Oui,
parce qu'en
voilà.
fait, finalement, quand c'est mixte, nous, on doit prendre une taille en dessous pour avoir notre taille.
Ouais, bah vous faites la même.
Et
vous
je dis, c'est à vous de vous adapter, quoi.
Oui.
C'est tout. Pour une fois.
Sont-ils habitués?
Non.
Il faut leur répondre, oui, bah débrouillez-vous. Voilà, c'est tout.
C'est notre quotidien, nous.
Ok, cool. Trop bien. Après ce petit parcours très intéressant, on va passer à la catégorie bol à question. Et du coup, si tu le veux bien, est-ce que tu veux bien nous faire un petit générique, un petit jingle?
D'accord.
Sur les bol à question. Si tu veux, toi, n'importe quoi. Parler, chanter, chuchoter, okay. Bol à question.
C'est le bol à question.
Très bien. Avec un petit tambour.
Avec quand même le petit tambour.
Donc, tu as des questions devant toi, des questions chill, des questions deep.
Ouais.
Peut-être pas la peine de te traduire. Tu pioches ce que tu veux. Tu peux y répondre ou nous les poser d'abord. Il y a une question par papier.
Mais je vais en prendre plusieurs. Je peux prendre une deep, une chill. Quoi.
Oui.
Ok.
Tout à fait.
Une chill. Okay.
Ouais.
Ok. Bon, bah, on commence par chill, allez. Parce qu'on a été un petit peu trop deep là. Alors. Qu'est-ce que t'aimerais savoir faire, mais t'as jamais appris? Un milliard de trucs.
C'est chill, mais ça peut être deep un peu.
Oh. Ouais. Bon, de toute façon, on peut tout transformer.
Ouais, on peut tout deepiser. Hein, ouais. Un truc que j'aimerais trop faire en ce moment, que j'ai jamais appris, il y a la boxe, pour être vraiment chill. Mm-hmm. Comment on appelle ça? La poterie. Mm-hmm. Ce qui ferait trop faire ça. Il doit y en avoir plein, mais là, comme ça, il n'y a que ça qui me vient.
Ok, donc c'est les premiers trucs qui te viennent. Pourquoi tu ne le fais pas?
C'est une séance de psy, là. Tu vas le faire quand?
Ouais, c'est vrai, on dirait, non, mais parce que ça m'intrigue.
Si, c'est en projet, mais il faut que je trouve le temps.
Oui, bon, c'est du temps.
C'est toujours une histoire de temps. Mais si, j'aimerais trop. Mais, bref, je vais rentrer dans des trucs. Je veux déménager, donc bref, c'est
ok.
On va rentrer dans des trucs un peu chiants.
Oui, mais c'est du temps et de la pratique. Mais voilà, c'est pas du manque de confiance ou quoi.
Non,
okay,
non.
T'es chaude de le faire.
Et ouais, je vais le faire.
Moi, je fais un cours de boxe thaï.
Ah, trop bien.
Non mixte.
Ok.
Je te donne le tuyau.
Ah, bah grave. Tu fais ça où?
Soit y aller lundi soir dans une salle, genre de la promo.
Allez, partagez vos agendas. Mais...
C'est pas rémunéré. Hein.
Non, mais en gros, il y a plusieurs façons de rejoindre ce groupe-là. Mais en l'occurrence, moi, je sais que pendant longtemps, pareil, je voulais faire de la boxe. Enfin, c'est de la boxe thaï, mais voilà. Et ce qui me manquait, je pouvais dire que c'était le temps, machin. Mais en vrai, non. Ce qui me manquait, c'est que quelqu'un me dise, viens là, ouais, à ce cours, à ce moment-là.
Sympa.
Et il s'est passé ça. J'ai une copine qui m'a mis dans ce groupe-là. Et donc, c'est comme ça que je m'y suis mise. Et maintenant, j'y vais en indépendance comme le yoga, grâce à Justine, qui m'a dit, viens à ce cours de yoga, tel moment, telle date.
Carrément, elle est allée sans moi, quoi.
Maintenant, c'est bon, j'y suis allée sans toi. Mais voilà, je sais que moi, c'est plus ça qui me manquait,
oui,
en vrai. La personne qui me disait, allez, viens, on va à telle heure, à tel endroit, à tel moment. Les infos, en fait, j'arrivais pas à les trouver par moi-même, ça me saoulait. Et voilà. Et en plus, en l'occurrence, un cours de boxe non mixte, c'était le bon point de départ pour moi.
Ouais, c'est cool.
C'est vraiment cool, le point de départ. Avec tout niveau, vraiment tout niveau.
Trop bien.
Je te reparlerai
quand on va peut-être boxer.
Mais je comprends ce truc du temps et de pratique et tout, mais il y a vraiment ce truc d'accompagnant aussi. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à faire un truc quand on ne m'accompagne pas, à faire une nouvelle activité que j'ai pas un ami qui est en train de faire en ce moment.
Au moins pour le début.
Ouais.
Après, une fois que t'aimes.
Sinon, t'y vas tout seul. Je sais pas, j'ai trop l'impression d'être à l'école et de faire un cours seul et tout.
T'as pas de copains.
De pas avoir d'amis. Alors que c'est bon, on a 30 ans, lançons-nous dans des trucs. Mais bref, et pour ma part, j'ai trop envie de refaire du roller. Parce que je faisais du roller quand j'avais genre 15 ans et j'aimais trop. Mais tu vois, pareil, je vais pas me relancer toute seule. Je sais très bien que je vais débarquer là. Quoi? Je vais où en fait? Je vais
J'ai fait du skatepark il y a pas longtemps.
Avec mes rollers que
Viens,
je sais pas
faire
genre. Mais où?
Bah sur des quais, des endroits. Moi l'autre fois j'ai fait une séance de patins à roulettes que je trouve hyper stylé par rapport aux rollers. Je préfère les patins à roulettes.
Et tu t'étais la gueule un peu?
Non, si je suis tombée, mais parce que j'avais pas très peur. C'était plus facile que je pensais pour démarrer, hein, attention. Et je faisais des gamelles. Mais comme t'as des protèges, enfin j'avais pris les protections vraiment aux mains et tout. Je suis tombée, mais tu vois, tu refais le roller et les pieds qui font
oui, complètement.
Et tu tombes en arrière sur le cul, paf. Et j'ai rigolé. J'ai dit, parce que moi, les chutes, ça me fait hyper rire. Et du coup, j'ai dit, vous pouvez rigoler, j'ai pas mal. Pour que les gens autour puissent rire.
Énorme, trop bien.
Bah, grave, vas-y, allons faire du roller sur les quais. Tu vois, je me sentirais moins ficha si je suis avec quelqu'un comme ça. Parce que si je me pète la gueule, en fait, je peux me retourner vers la personne avec qui je suis en mode.
Et rigoler.
On rigole, parce que si t'es toute seule, quand même, c'est. Et ouais, voilà, je vais faire du roller. Et bah, faisons des trucs. En fait, tout ça pour dire aussi, d'ailleurs, cette question, qu'il y a beaucoup de gens, je trouve, qui s'empêchent. Il n'est jamais trop tard. Il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de faire des choses. Et j'en faisais partie pendant longtemps. Moi, j'ai refait des choses il n'y a pas longtemps, comme par exemple du piano. Et je fais du yoga et des cours de contorsion au cirque. En fait, je voulais faire ça pendant longtemps. Et je me disais, mais ça sert à rien de commencer ça quand on n'a pas 12 ans.
Genre vraiment, tu vois, c'est des trucs un peu qui me paraissent des trucs de jeunes prodiges, quoi. Et je me disais, mais je vais pas démarrer un truc comme ça à 30 ans. Même du piano, je trouvais ça nul, l'idée de commencer à faire du piano quand t'as pas 12 ans et que tu peux pas être trop chaud à 18 ans, tu vois. Ce qui est complètement... ce qui est complètement nul de penser comme ça. Et voilà, tout ça pour dire que même à 30 ans, 40 ans, 60 ans, on peut démarrer une activité.
Grave.
Et, c'est d'autant plus challengeant, d'ailleurs. Et faites-le, quoi.
Ouais, mais je suis grave d'accord. Il y a vachement un truc de... Et je trouve que c'est, pour le coup, vachement en France aussi, de... t'as pris un chemin, tu restes sur ce chemin, tu vois.
Ouais.
C'est genre, t'as fait telle étude, t'es dans telle catégorie de personnes, tu peux pas faire d'autres trucs. Et en fait, si tu prends un petit peu de recul, tu te rends compte que tu peux faire plus ou moins ce que tu veux. Et
bien sûr.
C'est pas parce que t'es allé à gauche à un moment que tu peux plus aller à droite, etc., revenir.
C'est quand même mieux de rester un peu à gauche.
Oui.
Enfin, après, on peut pas après, citer, je veux dire,
rien à voir.
Rien à voir avec, par exemple, la politique. Tu pioches une question?
Tu pioches une question? Non, tu voulais en piocher une deuxième.
Vas-y.
Ah oui, vas-y. Enfin, vas-y, n'importe. Vas-y.
Oh, écoutez, la politesse.
Oh, et alors, allez, une question deep. Comme ça, on change un peu. Le combat le plus important à tes yeux?
Oh là là.
Claire.
Moi en premier?
Ouais.
Le un seul?
Bah ouais. Désolée, c'est faire une échelle des combats. Non mais en gros, attention, ouais. Hein, on précise, c'est pas le combat. Quel est le combat le plus important? Point. C'est toi, qu'est-ce qui te fait le plus mal au ventre? Tu vois, il y a un truc... Ouais.
Je pense que c'est la... Je dirais que c'est la violence envers les femmes et envers les enfants.
Ok.
Voilà. Ouais. Après, il y en a plein d'autres. Mais celui qui m'anime le plus, c'est celui-là. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf qu'il y ait des gens violents avec des femmes ou des enfants. Voire avec des gens tout court. Hein. C'est juste que souvent, c'est plus avec des femmes ou des enfants. Ça peut aussi être contre des violences homophobes, racistes. Enfin, toutes les violences, en fait, ça me... Je comprends pas. Ça me rend dingue. Voilà.
Ah bah, c'est sûr qu'il y a du boulot. Hein. Ouais. Et on avance, on s'améliore, tu dirais?
Je pense que oui. En fait, on s'améliore parce qu'on en parle. Et du coup, en en parlant, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais c'est parce qu'on en parle plus.
Oui.
Donc,
oui, parce qu'il y en avait sûrement autant avant.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais on ne mettait pas le mot sur le fait que c'était des violences, déjà, parfois.
Ouais, donc je pense qu'on avance dans ce sens-là. On avance dans la parole. Après, je pense qu'on n'avance pas assez dans l'écoute. Et je parle notamment des institutions et tout ça. Je pense qu'il faut quand même qu'ils se bougent un petit peu plus, quoi.
Ouais.
Pas politique, hein, mais...
Bah, si,
non, mais entre autres...
Bah, si, de toute façon, qu'il y a un problème des institutions.
Ouais.
Sinon, de toute façon, on n'aurait pas autant de violence, parce que...
Ouais.
C'est forcément systémique, c'est forcément l'État, c'est forcément plus grand que nous.
Ouais, et ne serait-ce que pour les enfants, tu vois, j'ai appris il n'y a pas longtemps, ça m'a choquée. Un enfant qui est battu, il va être protégé, dans la plupart des cas, ils vont essayer de le protéger, ils vont le placer en foyer, etc. Et en fait, la plupart du temps, il n'arrive rien aux parents. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Bon, juste on t'enlève ton enfant, bon, c'est déjà beaucoup, mais a priori, tu ne lui faisais pas trop du bien. Mais ils vont pas... ces gens-là, ils ne vont pas en prison. Il ne se passe rien, en fait. Il n'y a pas de punition, entre guillemets. Je sais pas comment le dire.
De toute façon, quand tu te penches sur des affaires judiciaires les plus communes, tu te rends compte qu'il y a comme un bug dans la matrice.
Oui, et après, et en plus de ça, vitesse, ce serait, ce, ouais, et pour être encore plus défaitiste, si tant est que ce soit possible, c'est étant donné que la prison n'est même pas la solution, parce qu'en fait, de toute façon, le problème, c'est qu'il y a aussi un problème de prison et de chemin en prison, notamment en France. Donc finalement, il y a zéro solution. Donc je me dis, on essaye déjà de libérer la parole, c'est beaucoup, mais il y a un grand chemin.
Ouais, bon, on va continuer. Hein.
Ouais.
Ben on se bat comme on peut. Hein.
Ouais, c'est quoi, toi, ton combat? C'est quoi ton combat préféré?
Bah, évidemment, spontanément, je pourrais répondre le féminisme, hein, parce que... Mais c'est pas ça. Ma réponse n'est pas celle-là. Je vais juste faire une parenthèse sur le fait que moi, et je comprends ton point de vue clair, et tu as entièrement raison de dire que c'est très bien de toucher des gens qui ne se disent pas féministes. Et moi, je suis ravie que vous existiez. Vous, parce que ça me permet, moi, d'exister dans mon... En fait, moi, ça me saoule. Et moi, je veux qu'aujourd'hui, les gens ils se disent féministes parce que je peux plus supporter qu'on croit que c'est une insulte. Mais qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire, c'est parce que vous existez que je peux exister aussi.
Non, mais je comprends.
Mais du coup, voilà. Mais en vrai, non. Le combat en ce moment, qui me semble vraiment important, c'est plus autour des questions raciales. Parce que je l'ai découvert plus récemment, vu que je suis blanche, j'ai des parents blancs, j'ai grandi entourée d'un milieu très blanc. Je viens de la campagne, il n'y avait pas de famille noire, il n'y avait presque pas... Enfin, très peu d'Arabes. et enfin de diversité, pas d'asiatique, enfin vraiment là d'où je viens, il y a pas très peu de diversité. Et en fait, donc j'ai découvert plus tard ce combat-là qui m'était un peu plus lointain, puisque forcément, il ne me touchait pas directement par rapport au féminisme. Et c'est comme, enfin, j'ai découvert un iceberg encore plus, peut-être, que les combats sexistes. Fin...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Que les actes sexistes, puisque en fait les actes sexistes je les ai subis, donc il y a un truc d'identification qui est presque plus logique, alors que les questions raciales, il y a mille questions que je me suis jamais posées, et en fait ça, je continue à en apprendre très régulièrement, et en plus de ça, justement comme je suis blanche, c'est un peu comme, si vous voulez, j'entends souvent que ou je sais même que un homme qui va être féministe ou allié et qui va parler à d'autres mecs avec son apport allié, il va être vachement plus écouté. Mmh. Il va dire la même chose que moi, et je l'ai déjà vécu.
Ouais, bah oui.
Un homme qui va dire la même chose que moi, mais simplement lui, de par le fait qu'il soit un homme, il est plus écouté par les autres hommes.
Oui, toi, t'es hystérique.
Et je me dis, putain, si... Au lieu de rager là-dessus, je me dis, ok, bah, vous savez quoi, moi, si je peux faire la même chose, c'est-à-dire si parce que je suis blanche, je peux faire passer des infos à mon entourage blanc sur des problèmes raciaux, oui, on dit raciaux, et j'ai envie de porter ça vachement. J'ai vachement
envie.
Ouais,
c'est cool.
Alors, ça peut être maladroit, parce que du coup, il faut que je fasse attention à ce que je dis, et parce que je ne suis pas white savior, et je ne veux pas white splainer, enfin, tous ces mots, voilà, ce n'est pas moi qui vais mener le combat plus fort, mais je me dis, ok, j'ai un truc à faire, en fait. Pour de l'intérieur, tu vois, niquer le truc de l'intérieur. Voilà. Et toi ?
Et moi, je suis fondamentalement.
Fondamentalement.
Si vous avez retrouvé les syllabes de Justine, n'hésitez pas à nous envoyer un message.
Écoutez tous les podcasts de suite, parce que je vous jure qu'il y a une fois par podcast où j'oublie des moitiés de syllabes. Une catastrophe. Fondamentalement. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, et de toute façon, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Camille et moi, on est au front sur à peu près tous les combats, entre guillemets, même s'il n'y a jamais tous les combats, mais on essaye vraiment de toucher à tout, parce qu'on s'intéresse à tout, on essaie de se renseigner, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui nous tiennent à cœur. Moi, je dirais qu'en ce moment, et dernièrement, j'ai vraiment une appétence ouais, mais du coup un énorme seum contre le capitalisme, en fait, en général. Je suis un peu genre, mais comment on en est arrivé là, comment on est arrivé à être 7 milliards de connards sur Terre à vouloir consommer toujours plus de trucs qui coûtent toujours plus cher, et d'avoir des écarts toujours plus ouf entre les riches et les pauvres. Comment c'est possible qu'il y ait 50 personnes qui possèdent la moitié des richesses du monde,
et tous les autres,
les autres sont des bouffons qui consomment leurs trucs en mode moi aussi je vais acheter ce dernier truc, dernier cri de machin, bref. Donc franchement, là je dis des banalités ouf, mais quand même je me dis, c'est quand même ça à la base des bases qu'on devrait combattre, parce que du coup c'est l'essence même du pouvoir de l'humain, et qui rend les gens complètement complètement zinzin.
Tout le monde veut devenir le mec d'en haut.
Mais oui, mais pourquoi
le mec, bien évidemment, donc ça, mais on risque pas de le combattre, puisque en fait on
ce sera toujours ça à tout jamais, jamais de la vie on sera tous égaux.
Faudrait voir s'il y a des sociétés qui fonctionnent sans capitalisme. Il doit y avoir des micro sociétés ou des comment on dit,
oui,
des tribus, non, c'est
auto des sociétés qui s'auto gèrent,
oui, déjà des endroits où c'est auto géré, des
oui, mais bon, effectivement, pour reprendre ton mot appétence, il y a une appétence au pouvoir qui je pense est la cause de plein d'autres combats qu'on mène, contre le patriarcat, contre le racisme, contre l'homophobie, etc. Et qui m'amène à un autre combat
aussi.
C'est
un peu la poule et l'œuf, parce que je me demande si c'est parce qu'on est dans un milieu capitaliste qu'il y a l'envie du pouvoir, ou si c'est parce que c'est les hommes qui dirigent le monde, que les hommes, ils aiment le pouvoir.
Ouais.
Et que du coup, on a créé du... Tu vois, si c'était
que des, si les
faudrait
femmes dirigeaient le monde,
un monde
je sais pas si on serait
dirigé par des femmes, c'est ça que tu veux dire?
Bah, non, je sais pas si on en serait arrivé là. Ouais. On en a parlé à Valentin, il me semble, ou je sais plus avec qui. Bref, on parlait de si on renverse véritablement le système.
Che Guevara.
Vraiment. Et qu'on,
il est venu au podcast.
Et que les femmes sont à la tête de la majorité des grandes entreprises, etc. Donc elles sont à la tête du pouvoir de manière générale dans le monde.
Ah bah ça. Bah, déjà, ça renvoie à notre vidéo sur l'écoféminisme.
Ouais,
déjà,
est-ce que du coup les femmes, elles ne deviendraient pas des grosses connasses comme les hommes?
Non, parce que souvent les femmes deviennent des grosses connasses, enfin celles qu'on appelle comme ça, parce qu'en fait c'est quand elles se comportent comme des hommes. Ouais, étonnamment, un comportement masculin chez un homme, enfin de pouvoir, de d'enquérir le plancher, c'est ok, c'est cool, c'est sexy. Chez une femme, c'est être une grosse connasse. Ouais. Sauf que elles, en fait, c'est parce qu'elles calquent leur modèle sur celui de l'homme. Ouais. Mais s'il n'y a pas le modèle de l'homme à la base. C'est-à-dire que tu vas avoir le droit d'exister en tant que femme et toi et ton comportement, tu prends pas un modèle qui, si le modèle n'existe pas, tu
mais
peux
ça,
pas...
Mais ça, je pense que c'est un truc un peu en train de changer. En tout cas, je parle dans le milieu... Alors, c'est très lent et beaucoup trop lent, mais dans le milieu des entreprises, tu vois. Effectivement, comme tu dis, je trouve il y a 20-30 ans, les femmes qui accédaient à des postes de pouvoir, genre dans les entreprises du CAC 40 et tout, elles se coupaient les cheveux très courts. Oui, il y en avait
une,
pas.
Il y en a fait. Une à travers, ouais. Une qu'une. Et il y en a plus aujourd'hui,
je crois. C'est vrai qu'il y en a pas. Non, mais j'ai pris le mauvais exemple.
C'était celle de Denji. Chez Engie, je crois qu'aujourd'hui, il n'y en a plus.
Il n'y en a pas, t'as raison. J'aurais
mais
pas
bon,
dire
dans les grandes entreprises.
J'étais dans les grandes entreprises. Ouais, ouais. Et en tout cas, les femmes qui ont des postes de pouvoir, elles ont tendance à, tu vois, se couper les cheveux très courts, s'habiller de manière en tailleur, etc.
Imiter,
etc.
quoi.
Imiter. Et imiter les comportements aussi, du coup. Et moi, j'ai un peu la sensation que c'est en train de changer pour traîner quand même aussi avec pas mal de femmes chefs d'entreprise. Bon, alors évidemment, je suis pas chef d'entreprise d'une énorme entreprise et peut-être que je me couperai les cheveux quand j'aurai 200 employés. Mais je crois pas. Enfin, moi, de ce que je vois de mon entourage d'entrepreneuriat féminin, il n'y a pas cette envie-là de tu vois, enfin, je me mets du vernis et je suis chef d'entreprise et tout va bien, quoi.
Est-ce que c'est parce que vous êtes plus nombreuses?
Ouais, voilà, c'est ça.
Enfin, tu vois, c'est que du coup, t'es moins la représentation. T'es moins la schtroumpfette.
Bah, bien sûr.
La
bien
seule
sûr.
Au milieu du groupe.
Bah oui.
Et du coup, c'est bien. Et
l'importance des rôles modèles, quoi, ouais.
Ça évolue, donc le petit message positif est là.
Voilà.
Et voilà. Ceci. Et donc, plus il y a de femmes à la tête d'entreprise, plus ça donne envie à d'autres femmes d'être chefs d'entreprise sans avoir à se déguiser en homme.
Et sans avoir un seul modèle. De la seule femme que j'ai vu faire ça, c'est Christine Lagarde au FMI. Enfin, l'exemple qu'on nous donne tout le temps, genre, il y a Christine Lagarde, oui, c'est bon, remettez-vous, il y en a une, tu sais. Voilà. Mais donc, si t'as
et qui, pour le coup, s'est coupé les cheveux et a mis des costards. Ouais. Ce qui est OK, hein.
Mais oui, grave, mais ça ne peut pas être la seule façon d'accéder au pouvoir, quoi.
C'est ça.
Wow, on a été chercher de loin.
Ouais, attends,
c'est
là,
c'était quoi la question? Le combat le plus important, oui, quand même. Ok.
Ouais.
À toi, vas-y, Claire, repioche une petite question.
Vas-y, Justine, t'as pas pioché.
Ah bah là, oui, c'est vrai. Moi, je l'ignorais.
Ouais, je veux.
Je n'existe pas, quoi.
L'amitié, quoi.
Non, c'est surtout qu'on est fusionnés, en fait, donc... Alors... Tatati tatata, c'est une question chill et c'est le pire cadeau que tu aies reçu.
Ah, moi je m'en souviens très bien.
Ah bah, tous mes frères et sœurs. Oh, bah, pour une fois que t'as un truc direct.
Mais
qui
parce
vient.
Que ouais, celle-ci, mais parce que c'est. Mais alors, j'ai pas les détails absolus, mais c'est mon grand-père qui est seul. Enfin, ils ont divorcé. Je pense que c'est important pour l'histoire parce que souvent c'est les femmes qui s'occupent de faire des cadeaux de Noël. Mm-hmm. On va pas oublier. Donc mon grand-père qui
non mais elle ramène du féminisme partout.
Oui, c'est absolument incroyable. Mais du coup, à un Noël, il nous avait offert un coffret de cassettes VHS. Mais en plus, c'était genre le cadeau commun, je crois, de tous les frères et sœurs. Ou alors c'était que pour moi. Dans tous les cas, je me suis fait niquer. De VHS, de je sais pas, Le Monde des Fourmis. Enfin, un truc horrible, mais même pas des documentaires animaliers, soit les trucs d'histoire, enfin, je sais même pas comment vous dire, comme si c'était Science Nat, mais même pas, parce que mais c'était pas du tout pour enfants, enfin, un truc de, mais un coffret, mais je sais pas s'il avait acheté, mais il y avait au moins 20 cassettes, jamais on a ouvert la moindre boîte de ce truc, et en plus, le pire, je trouve, c'est que la boîte était très grande, et du coup, quand t'es petit, un grand cadeau, t'es trop content,
on est bête quand on est petit,
c'est comme quand on a plein de pièces de monnaie. On croit qu'on a plus d'argent que genre un billet, tu vois, alors que c'est nul. Et là, j'étais là genre, wouhou, un énorme cadeau, trop bien. Et on
t'as dû être tellement cramé d'être déçu.
Bah, toute ma famille sait que je déteste à chaque fois. Ils me disent, Camille, t'aimes rien et tout, genre.
Mais oui, mais toi, t'as en fait plusieurs anecdotes. Il y a plein de cadeaux qu'on t'a offert que t'as pas aimé,
oui,
non?
Mais parce que je sais pas trop. Parce que je mens pas, c'est ce que je disais dans un autre podcast. J'aime pas mentir. Je trouve
si
ça nul.
Pas, tu le dis, quoi.
Mais maintenant, ça y est, j'ai compris qu'il fallait que je le fasse. Maintenant, je l'essaye. Je mentirai quand vous m'offrirez des cadeaux.
Très bien.
Parce que
c'est quoi
ça? Parce que j'aime quand même bien qu'on m'en fasse. Les gens ils disent on te fait plus de cadeaux, t'aimes rien. Non, c'est juste que je mens pas.
Vous avez qu'à mieux me connaître.
Mais des cassettes de, tu sais, de trucs chiants à regarder quand t'es petit. Rien n'était intéressant. Enfin, c'est limite c'était le dictionnaire en cassette vidéo, tu vois. Mm-mm. C'est ça. Franchement, partez du principe que c'est ça. Le dictionnaire en cassette vidéo. Trop nul.
Est-ce que toi tu te rappelles?
Bah, j'étais en train de réfléchir et j'ai des bons cadeaux moi. J'ai pas de souvenirs de cadeaux pourris. J'ai des bons amis.
Bah, moi non plus.
Ah ouais?
On m'a offert que des bons cadeaux. Vraiment, je n'ai pas le souvenir d'un mauvais cadeau. Et puis, franchement, ça commence à faire des années que mes parents me disent vraiment « Tu veux quoi pour ton anniversaire ?» Comme ça, au moins, c'est bon, c'est ça, clair. Tu
même vois quand t'es petit.
Et même petite, enfin, je sais pas, j'ai bien l'impression que mes parents m'ont toujours cernée. J'ai dû avoir des cadeaux moins cool que d'autres. Mais bon, je repense à ma cousine, par contre, qui, il y a 2 ans, pour Noël, a eu... un billet de 50 euros enroulé dans un... Enfin, il était enroulé et il était enroulé dans un paquet cadeau et on l'a déchiré.
Bon, ceci déchiré. Dit, tu peux scotcher un billet, mais...
oui, mais ça faisait vraiment pitié, la pauvre. Ça, c'était un petit peu un cadeau pourri. J'en avais fait une story Instagram et tout le monde avait dit « La pauvre, la pauvre !»
Voilà.
C'était vraiment le pire cadeau.
Vraiment, le pire cadeau que vous ayez fait. Vous avez déjà raté un cadeau, genre. Vraiment, tu fais un cadeau à quelqu'un et c'est pas... Fallait pas. C'est pas le bon truc, ça va pas...
Non,
je
moi
suis
le
bien observatrice, bien attentionnée. Seul,
ouais, moi aussi.
Normalement,
dès que quelqu'un dit un truc,
grave.
Non, moi le seul truc qui est drôle avec les cadeaux, enfin, je sais pas si c'est drôle, mais mon mec il me fait rire et m'achète. Je sais à chaque fois que il y aura toujours des chaussures à mon anniversaire. Je sais, il a un problème avec les chaussures, c'est-à-dire lui.
C'est lui qui a un problème avec les chaussures.
Oui, mais il offre des chaussures à tout le monde. C'est-à-dire, souvent j'ai des chaussures et un autre truc, mais il y a toujours des chaussures. Et c'est très, il a un vrai problème avec ça. Il est fan, quoi.
Et toi, t'adores pas spécialement
mais c'est pas
les chaussures.
J'aime bien les chaussures, ça me fait plaisir, tu vois. Mais
lui, c'est son cadeau sûr.
Mais lui, il est. Puis dès qu'on doit faire un cadeau à un pote, il me dit, on lui a qu'à lui acheter des chaussures.
Il a une idée en boucle.
Et pour lui, c'est trop bien, tu vois.
Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il oublie qu'il avait déjà fait des chaussures la dernière fois?
Non, parce que pour lui, c'est trop cool. Les gens, lui, si tu veux lui faire un cadeau, tu lui offres des chaussures.
Ah oui,
c'est facile.
C'est
ce qu'il veut.
Oui, non, mais ceci dit, c'est un beau cadeau des chaussures. Ça coûte un peu cher. Tu fais selon ce que la personne a envie en ce moment.
Ça aille quoi. C'est
oui, il faut que ça aille quand même. Ouais. Ah, c'est marrant.
C'est drôle.
On recycle la même idée en boucle.
C'est pas à Noël, il y a 8 boîtes de chaussures.
C'est ça.
Ok. Bah écoutez, vous aviez pas d'anecdote formidable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Bah voilà, c'est comme ça. Hein.
Ouais. C'est comme ça. Hein. Prends donc une nouvelle question. Entraîne-nous dans un autre. Là, il y a chill et là, il y a deep.
Ok.
Et allez dans le chill.
Et on a. Tu voudrais te réincarner en quel animal? Trop bien.
Justine va dire un chat.
Non. Ouais, c'est sûr.
Tout le monde va dire un chat.
Nous, c'est drôle, ça me fait penser juste à quand on fait des entretiens d'embauche pour meufs, on demande à chaque fois quel animal tu serais si t'étais un animal. J'adore. C'est ma question préférée de tout l'entretien d'embauche.
Et est-ce que les gens répondent pas très souvent la même chose?
Non.
C'est assez varié.
On n'a jamais eu la même chose.
Et est-ce qu'il y a des trucs improbables?
Les gens buguent un peu parce que c'est pas non plus une question. Tu vois, c'est quoi tes qualités, tes défauts, machin, les trucs que t'as préparés pour un entretien.
Je suis très ponctuelle. Mon défaut, c'est que je suis trop perfectionniste.
C'est ça. Mais non, il bug un peu et non, on a eu des trucs. On en a une qui nous a dit qu'elle était un canard. Ça m'a fait rire. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est l'explication derrière. C'est genre parce que je peux aller dans l'eau, mais je peux aussi voler. Mais en même temps, j'aime bien être au chaud dans une ville. Genre, un truc.
La coquine. Tout ça pour dire qu'elle était multitâche, quoi.
Ouais. C'est ça.
Ouais.
Donc bref, j'ai dévié, mais ça me faisait penser à ça. Et du coup, si je voulais me réincarner en animal. Je pense que c'est l'animal que j'ai dit que j'étais à mon équipe d'ailleurs. C'est un mélange. Du coup, je suis un. Comment elles m'ont dit ?
Hybride ?
Un écunard. C'est un mélange entre un écureuil et un renard.
Ok.
Voilà. L'écureuil, parce que j'aime bien être dans ma petite niche, quoi. Enfin, c'est pas vraiment une niche d'ailleurs, mais.
Ouais, mais t'aimes bien être
entouflé
dans ton petit coin, quoi.
C'est un terrier, le truc des renards ?
Non, l'écureuil.
L'écureuil, c'est un nid.
Ouais,
non,
et
c'est un trou.
Et le renard, c'est un trou.
Dans les dessins animés, c'est ça.
Oui.
Clairement, un trou dans l'arbre.
Oui, c'est un trou, voilà. J'aime bien dans ma petite grotte, quoi. Et en même temps, le côté un petit peu sauvage du renard.
Ok. Voilà. Un écunard. Et toi, tu serais quoi? Vu que t'adores les animaux, tu serais quoi?
Genre une panthère?
Ah,
un truc un peu en haut, déjà un peu en haut de la chaîne alimentaire.
Ouais.
Genre, j'ai pas envie d'avoir peur toute la vie. J'aime pas les petites bêtes. Tu vois, tout ce qui est insectes et tout, ça me dégoûte. Donc, je veux pas du tout être ça.
Pourquoi tu serais un insecte?
Oui, vraiment. Qui choisit
ça?
Quel enfer.
Je serais un gendarme.
Vous voyez,
la pire chose. Il est horrible. Il traîne trop dans la cour de récré.
Les gendarmes, les trucs des cours de récré.
Qui se font manger, pisser dessus par les enfants. Qui font que s'enfiler. Toujours deux gendarmes collés. Ils sont là, ils font l'amour.
C'est vrai.
Est-ce qu'ils font l'amour même?
Je sais pas, mais ils sont clairement collés.
Ouais. Disons leur. Mais j'ai l'impression que j'en ai pas vu depuis. Enfin, oui, genre, c'est un truc d'enfance en fait.
Mais vraiment,
ça n'existe pas vraiment.
C'est vrai.
Non, mais ça traîne que dans la cour de récré, les gars.
Non, ou alors ça n'existe pas. Genre,
c'est dans notre tête.
Ah, ça n'existe pas, d'accord. Ah, on l'a tous rêvé.
Non, mais dès que tu deviens adulte, t'arrêtes de voir les gendarmes.
Peut-être que c'est autre chose quand t'es adulte. Genre, c'est les pierres.
C'est des vrais gendarmes que tu vois.
Ah oui, c'est
une métaphore. Quand t'es petit, tu sais pas que ça existe la police et tout.
Sauf que rien à voir, on leur jette des cailloux. Bon, bref.
Bah, en même temps, on fait ça aussi. Hein.
Ok,
donc, ouais, genre une panthère déjà, parce que tout le monde trouve que c'est beau, tu vois.
Est-ce que je courrais vite?
J'en ai marre.
Je sais pas. Tout le monde a dit que c'était beau, donc je me
mets. Franchement, c'est trop dur pour moi de me projeter dans les animaux, ça m'intéresse pas. Je peux pas redevenir un humain. Moi, j'attends que. Je me dis, je vais peut-être recommencer une autre vie, je préfère redevenir une humaine. Okay. Si je peux, en vrai.
Ou un humain?
Non.
Homme,
qui, oui.
Pour contrôler le monde.
Ouais.
Avec ta grosse. Pardon. Alors, moi, je serais, un chat pour me faire caresser toute la journée.
Bah, t'as pas besoin d'être un chat pour ça. Hein.
Oui, c'est vrai. mais bon, si je pouvais être un chat plus, parce que c'est vrai que je suis quand même, enfermée dans une maison.
Non, mais tu peux vivre à la campagne. Tu peux être toujours chez mes parents. Ouais, viens chez mes parents, genre, tu seras bien.
Et je mange des carcasses croquettes. De poisson. Ah non, oui.
Mais excuse-moi, à la campagne, les gens, ils achètent quand même des croquettes. Enfin, que crois-tu?
Non, mais tu veux dire, en habitant chez quelqu'un.
Par un chat sauvage.
Errant dans la campagne, oui, non. Mais donc, sinon, comme toi, une panthère ou un guépard.
Qui a pas de personnalité maintenant?
Toujours un félin. Moi.
Personne dit genre une baleine. T'as des gens qui. Parce que j'ai l'impression qu'on n'imagine jamais les animaux sous l'eau.
Ouais, non, j'ai eu. Alors on a un éléphant, on a eu des chiens, on a eu une hirondelle. Lion,
truc qui vole évidemment.
Oui, mais poisson, tu rigoles, stylé. Ouais.
Le guépard, c'est pour genre l'animal qui court le plus vite, tu vois. Je trouverais ça fou de courir et que ça me fatigue pas parce que moi courir c'est
une gazelle. Tu peux être une gazelle.
Oh non, ils se font trop manger. Ah, je te vois bien en gazelle. Peur et tout.
Ils se font trop manger. Une gazelle.
Mmh. Insupportable. Le masculin est neutre.
Ok. All right. Nous allons passer à la conclusion de ce podcast en suggérant. Un conseil ou un déconseil culture. Donc un truc que tu aurais vu, lu, entendu récemment, que tu conseilles ou que tu ne conseilles pas parce que c'était pas bien. Ce n'est que ton avis. Mais tu peux partager.
Alors, je réfléchis parce qu'en ce moment, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose.
Ouais, moi aussi, je réfléchis.
Si, j'ai vu une super pièce, je l'avais déjà vue, mais je l'ai revue il y a pas longtemps. Qui mérite vraiment qu'il y ait des gens qui aillent la voir. Et je trouve que c'est dommage qu'elle soit dans une si petite salle. Donc c'est une pièce qui s'appelle Les Chatouilles. Vous l'avez vu ?
J'ai vu le film.
Ouais, le film a été fait à partir de la pièce, du coup. Et j'ai pas vu le film, moi, pardon.
Et elle se joue encore, la pièce ?
Ouais, elle se joue encore. Et c'est Andréa Bescon qui met en scène et Déborah Moreau qui joue.
Okay.
Et qui est juste incroyable. Elle fait tous les rôles. Il y a, je pense, 12 rôles. Et elle fait tout. Toute seule, et elle passe d'un mec horrible à une petite fille même pas un quart de seconde.
Enfin, trop bien.
Impressionnante. Et à la base, c'est une danseuse, c'est même pas une comédienne.
Ok.
Et elle est vraiment waouh. Par contre, la pièce est hyper dure. Faut quand même être bien.
C'est une pièce qu'on peut lire sur la.
Oui.
Donc sur une histoire, sur une petite fille qui subit des attouchements de la part d'un ami de la famille.
Ouais.
Adulte.
Bien voilà. Et sur comment elle essaye de s'en sortir à travers le corps, à travers la danse, tout ça. Et c'est une histoire vraie, c'est l'histoire d'Andréa Bescon. Et franchement, la pièce est ouf, quoi. Et Déborah Moreau, elle est juste incroyable, vraiment.
Et c'est drôle aussi, non? Parce que,
ouais,
me semble, parce que dans le film, déjà,
c'est
il y a
drôle.
Une légèreté,
ouais,
une forme,
ouais, ouais,
de légèreté d'un propos très, très dur.
Ouais, ouais, ouais. Après, tu ressors, t'es pas bien, hein, franchement.
Okay.
Enfin, moi, en tout cas, je suis ressortie, j'étais un petit peu retournée. Mais oui, heureusement, ils ont mis des pauses où tu arrives à rigoler, où elle se moque un peu de sa prof de danse, etc. Et ça fait du bien parce que sinon tu t'étouffes, en fait. C'est...
Ouais.
Mais franchement, ça vaut le coup et c'est hyper intéressant. Voilà.
Les Chatouilles, bah oui, que ce soit la pièce, effectivement.
Ouais,
je pense que
film,
c'est je pense que dans la pièce, c'est encore plus marquant, comme c'est une performance de la part de l'héroïne, enfin de l'actrice, en l'occurrence, qui joue. Dans le film, vu qu'il y a tous les rôles, Andréa Bescon. Mais je crois qu'elle joue son propre rôle, Andréa Bescon.
Ah ouais, mais je l'ai pas vu, le film, ok.
Et il est très bien aussi, mais c'est une histoire effectivement très dark, mais oui, tu ressors et t'es mal de cette histoire-là, mais j'ai pas le souvenir d'être ressortie lessivée, tu vois.
Ouais,
parce que c'est quand même une œuvre cinématographique avec parfois tu ris, parfois tu t'aimes pas, parfois tu pleures, parfois. Donc c'était. peut-être que c'est moins dur en film.
Ouais, je sais pas.
Je pense que ça vaut vraiment le coup de le voir sur scène aussi.
Mais ouais, et vraiment, même juste pour Deborah Moreau, allez-y, parce qu'elle est incroyable.
Ouais. Ok.
Ok, moi, ma reco du moment, c'est pas du tout du nouveau, mais en gros, je suis en train de poncer en ce moment la chaîne YouTube d'Arte. Je sais pas s'il y en a qui font ça, mais on n'y pense pas assez. Sur la chaîne YouTube d'Arte, il y a beaucoup de docus, entre 20 minutes et 1h20, sur tout, absolument tout. Mmh. Et quand même, on va pas se mytho, les docus Arte, ils sont au-dessus, quoi. Il y a vraiment... c'est hyper quali, c'est super. Et là, dernièrement, j'ai vu un docu sur l'enfant unique en Chine. J'y connaissais rien, et j'ai vraiment... J'étais choquée, quoi. Donc voilà, je vous recommande, mais que ce soit ce sujet
c'est le
ou
mythe,
un autre.
Le truc du mythe de dès qu'ils accouchaient d'une fille, il fallait la tuer et tout, là. Parce qu'ils avaient le droit d'avoir. C'est fini, ça qu'ils ont...
Ah non, il y a toujours l'enfant unique.
C'est toujours la règle de l'enfant unique en Chine.
Ouais, bien sûr.
Ah ouais, je savais pas.
Si, bien sûr. Clairement, l'enfant unique.
Mais ils
tuent
pas les gens, quand même.
Non, ils tuent pas des gens, ils stérilisent les femmes qui ont déjà eu un enfant.
Ah ouais, mais de force.
Oui.
Et du coup, ça suit.
En fait, c'est une dictature, la Chine.
Ouais, voilà.
Donc,
ouais,
elles doivent avoir envie. Entre énormes guillemets.
Chaque femme qui a eu un enfant est
automatiquement stérilisée. Oui, c'est la suite.
Ouais, c'est la suite logique. Et donc, on suit, notamment dans ce docu, les femmes qui ne le font pas.
Ah ouais,
qui,
trop stylé.
Et rebelles. Ouais, les rebelles qui se recluent, qui se foutent dans des villages et qui sont suivies par la... Parce qu'en plus, il y a la police qui vient régulièrement chez toi pour voir si t'es pas enceinte et tout. Enfin,
mais non.
C'est un truc horrible. De dingo, vraiment. Et en fait, j'en avais aucune idée, aucune conscience. J'avais entendu parler de l'enfant unique, enfin, tu vois, un peu légende. Et en plus, ce doc, il dure 30 ou 40 minutes, donc assez rapide. Cool. Et en fait, il y a plein de choses. Et on suit les femmes qui ont des enfants. Et on suit les enfants, les seconds enfants, enfin les enfants interdits.
Okay.
Donc on suit les frères ou sœurs de l'enfant unique qui sont pas acceptés dans la société, ils ont pas le droit d'aller à l'école. Donc on suit une petite meuf de 14 ans, et ils sont des millions en Chine. Et on suit une petite meuf de 14 ans qui, sa sœur va à l'école tous les matins, et elle reste à la maison, chez elle comme ça, elle a le droit de rien faire. Et elle est ultra, ultra déterminée, genre vraiment j'étais là, petite larmiche. Elle va à la bibliothèque tous les jours et elle apprend à lire elle-même.
Trop stylé.
Et en gros, elle lit tous les livres de droit qui existent dans la bibliothèque près chez elle. Et elle apprend le droit et elle cherche tous les textes de loi à la loupe pour trouver la faille pour lui donner le droit d'exister. Et elle le fait, et du coup, le docu se finit sur elle qui a pécho des avocats. Non, et qui va toute seule à la justice, pardon, parce qu'il n'y a aucun avocat qui veut défendre son cas vu que c'est une enfant illégitime.
Qui n'existe pas.
Donc voilà, mais grave intéressant, j'étais vraiment là, oh, il se passe beaucoup de choses dans ce docu, c'est ouf. Mais les docu Arte, quoi, vraiment.
Ouais, c'est une bonne
et
idée.
La chaîne YouTube d'Arte, en fait, tout simplement, et
je sais pas,
quoi. Un docu tous les jours, tous les deux jours, c'est un truc de fou, ils sont chats ou
ouais, ils ont une équipe.
Et toi
Je vais parler de Bac Nord, parce que je l'ai vu récemment et ça m'agace beaucoup que ce genre d'œuvre continue à exister dans le paysage cinématographique français. Et du coup, c'est plutôt, je vais plutôt le déconseiller, et je vais surtout le déconseiller parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment voir des œuvres. Il y a des purs produits de fiction, il y a des choses qui sont purement juste pour la détente,
le divertissement.
Oui, voilà, merci. Le divertissement pur, etc., ça peut... Bien sûr que ça existe encore, il n'y a pas de souci, ça peut encore exister pleinement. Mais on ne peut pas oublier qu'on est en 2021 dans une ère où les choses bougent, les langues, comme on disait tout à l'heure, se délient. Les femmes veulent reprendre le pouvoir, les minorités veulent arrêter d'être oppressées. Enfin, on a envie de dénoncer tout ça.
Les injustices sont dénoncées.
Voilà, on essaye de faire avancer le monde. Et du coup, le problème de Bac Nord, c'est que c'est un film, pour raconter rapidement, c'est un film donc, c'est un film français qui se passe en France, dans la police de Marseille, la Bac Nord, enfin la Bac des quartiers nord de Marseille. Donc c'est ancré dans une réalité, dans notre quotidien. C'est complètement, c'est pas fiction, divertissement, qui a rien à voir. C'est pas Dune qui se passe sur une autre planète, tu vois. Là, on est là aujourd'hui, dans notre quotidien. Et on est sur des problématiques de... policiers. Enfin, si on réfléchit à notre quotidien, nous, aujourd'hui, en 2021, en France, il y a des violences policières qui sont dénoncées, qui essayent d'être dénoncées. Il y a du racisme au sein de la police. Il y a plein de problématiques. Les femmes ont envie d'exister davantage. Et en fait, on se retrouve avec un film dans lequel il n'y a pas de femmes. Si, il y a deux rôles de femmes qui ont 10 minutes d'écran tout au plus. Donc, principalement que des mecs qui racontent une histoire de mecs qui sont des flics. qui essaye de démanteler un réseau de drogue et qui utilise des techniques pas tout à fait légales, enfin qui surfent un peu avec la légalité, qui du coup se retrouvent accusés et emprisonnés. Et en fait, c'est un peu les victimes du film. Mmh. Donc les policiers dans ce film sont un peu les victimes, même si on pointe du doigt éventuellement leur hiérarchie qui leur tournerait le dos, mais quoi qu'il arrive, on en revient sur les flics sont les victimes. Et je le déconseille pour cette raison principale, c'est que je ne crois pas, malheureusement, et c'est peut-être mon côté pessimiste, que la majorité des Français, donc la majorité des spectateurs de ce film, soient allés le voir en gardant à l'esprit les problématiques sociétales. Et du coup, pour moi, c'est une bêtise de faire ce genre de film dans un pays qui vote majoritairement à droite, à extrême droite, qui est un pays qui a un problème de racisme au niveau de l'État, du système, qui a un problème de violence policière dont on n'arrive pas à sortir quelque chose. Enfin, en fait, on n'arrive toujours pas à le justifier, enfin, à dire que ça existe. On continue à entendre c'est aux États-Unis, on continue à ne rien entendre en fait, pour lutter contre ça. Et du coup, voilà, moi, ça me... C'est pour ça que je déconseille, parce qu'en soi, c'est un divertissement qui pourrait être sympa, mais ça m'agace, parce que je sais
apparemment,
que...
Apparemment, c'est un très bon film de...
Oui,
de...
Bah,
d'action.
Moi, je l'ai vu, et
oui, si
je
on aime les garçons,
quoi tu parles, et c'est vrai que c'est un film d'action, quoi.
Oui, mais voilà, et apparemment, c'est un très bon film d'action qui marche bien.
Sur ce point-là, il est très bien filmé, joué, et clairement...
On s'ennuie pas.
On s'ennuie pas, ça passe vite, t'es dans le truc, t'es dans l'action. Après,
c'est ça qui me dérange.
Et ça manque aussi beaucoup de nuances, je trouve. Enfin, tu vois, t'as vraiment le point de vue des flics et la banlieue. Enfin,
la banlieue est diabolisée.
Le quartier nord de Marseille. Alors, je sais, c'est enfin, j'y suis jamais allée, donc, mais je sais ce qu'on en dit, que c'est horrible, qu'on peut pas rentrer et tout. Mais là, franchement, enfin, on dirait qu'il y a que des gens qui veulent tuer tout le monde. Enfin, on dirait qu'il y a zéro humanité dedans. Alors,
ce sont forcément des banlieues avec des familles qui
vivent. Oui, enfin, c'est ça. Il y a des gens, il y a des femmes. D'ailleurs, on n'en voit pas, comme tu dis, on en voit une vite fait quand on est dans les quartiers nord. Dans les quartiers nord, on voit que la maman du petit là qui sort son couteau là. Bref, et alors que, enfin voilà, il y a des gens qui mangent ensemble, qui doivent rigoler, enfin, et ça on le voit pas du tout, on voit pas du tout de moments où les gens vivent juste,
et
on voit
surtout
que des gens
aujourd'hui,
très violents.
Tu demandes à n'importe qui, c'est quoi pour toi les quartiers nord de Marseille, quelqu'un qui n'y vit pas, enfin, ils vont dire ah c'est hyper dangereux, on peut pas rentrer. Ouais, bah voilà. Mais du coup c'est, donc je veux dire, donc, on le sait,
ça alimente l'idée reçue.
C'est bon, on le savait à la rigueur, que ce soit vrai pas vrai. On peut aussi commencer à montrer d'autres
trucs. Voilà, c'est ça qui manque.
C'est en ça
beaucoup,
où je déconseille le film, c'est que des objets de divertissement, honnêtement, il y en a plein d'autres. Mmh. Franchement, il y en a plein d'autres. Sur ma vie, il y en a plein d'autres. Surtout si vous voulez voir des garçons qui font de la bagarre avec des pistolets, je vous jure, il y a de quoi faire. Vraiment, il y a de quoi faire. Donc, du coup, voilà, ça m'agace vraiment qu'on sorte encore des objets cinématographiques, et surtout que je sais, pour avoir vu des interviews et tout, que le réalisateur n'a aucune conscience et se refuse totalement l'idée que son film puisse être politique. Il est dans un déni total, et ça me rend encore plus ouf.
Oui,
si à la rigueur, lui, il avait un parti pris, s'il assumait, s'il disait... Lui, il est en mode, quoi, n'importe quoi, vous exagérez, de croire que ça a un lien. C'est de la fiction, ça n'influera pas le vote des gens. Bah, t'es bête. Enfin, désolé, mais t'es bête.
Oui, on rappelle qu'une semaine après la sortie du film, il y a Marine Le Pen qui a tweeté que c'était un superbe film.
Ah ouais, je savais pas ça.
Après. Donc évidemment que ça... Voilà, ça a forcément des conséquences. C'est forcément politique de sortir un film comme ça en 2021.
Bah, tous les films,
oui, déjà.
Une œuvre d'art, c'est forcément
bien
un peu engagé.
Mais là, je ne supporte pas le côté
engagé,
de non, rien, et c'est vous qui êtes un peu bête de voir le mal partout, de voir de la politique partout. Mais il y en a, en fait.
Oui, il y en a. Il y en a, et on est dans une année d'élection. Donc voilà.
Donc voilà, je déconseille.
C'était un déconseil. Voilà. C'était le déconseil de Camille Giry. Très bien, bah ça vous fait des conseils et des conseils. Claire, c'était trop cool de t'avoir avec
trop
nous.
Bien. Merci beaucoup.
On rappelle tes réseaux.
Oui.
Donc Claire mais pas toujours. Ça c'est ton compte perso où tu te livres pas mal.
Ouais.
Et Meuf Paris.
Exactement.
Et également la sortie de ton livre.
Voilà.
Qui est partout.
Édition Larousse.
Trop bien. Et bah écoutez,
une petite actu, une petite surprise, tu veux nous
teaser
quelque chose ?
Non, tout va bien.
La sortie d'un nouveau t-shirt avec
Il y a des sorties qui arrivent, mais je sais pas quand est-ce que vous allez...
Moi j'ai une question, c'est lequel ton message préféré, tout confondu, de toutes tes collections ?
Là encore une question.
C'est dur.
Si tu ne devais en choisir qu'un.
C'est horrible.
Non, mais c'est un design. Non, mais ça pourrait. Tu pourrais avoir ton coup de cœur.
Tu pourrais avoir ton petit chouchou.
Ton petit chouchou, ta petite chouchoute.
Bah, je pense qu'un de ceux que j'ai plus kiffé faire, c'est pas forcément celui que je préfère porter, mais celui que j'ai plus kiffé faire, c'est le trop fort. Tu vois, si vous voulez.
Moi aussi.
Je l'ai.
Je l'ai.
Trop bien. J'aime bien celui-là.
Mais ouais, j'ai vraiment kiffé le faire. J'ai l'impression de me défouler et en plus, les gens ont kiffé. Donc,
et il a un impact, hein. Franchement, ouais. Quand je me trimballe avec, vraiment, les gens.
Ah, trop bien.
Attends, je veux voir. Enfin, tu sais, ils ont envie de lire, puisqu'il y a beaucoup de choses écrites. Et ils sont là, ah, stylé. Enfin, vraiment, on m'a.
Ah, bah, comme moi, j'ai le pull avec non. Et dans non, c'est N-O-N. Et les lettres sont construites avec pute, chaudasse et tout. Sauf que dans une manif, je me suis pris du spray poivre rouge et du coup.
Ah merde.
Il est tout taché.
Ouais, à cause d'un policier.
Bah, il a une histoire, quand même. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, je le mets plus. Mais pareil, les gens ils disaient attends, fais voir. Ouais, bah, tiens, lis bien là. Ouais. Lis bien, même.
Lis bien proche, regarde.
Trop cool. Alright, on va faire un petit merci bye, toutes les trois, pour dire au revoir aux gens.
C'est notre petit gimmick de fin.
1, 2, 3.
Merci, bye.
On espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio, à le faire tourner, nous laisser des étoiles, des cœurs, des mots doux, des commentaires quand c'est possible. Ça nous aide à référencer le podcast.
Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook pour les plus vieux d'entre vous en tapant Camille et Justine. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro.
Merci, bye.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.